Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Bible, la parole inspirée de Dieu. Les Juifs de Bérée y sont cités en exemple parce qu'ils vérifiaient ce qu'on leur enseignait. Si tous les chrétiens avaient agi comme eux, il n'y aurait pas tant de dénominations et tant de croyances différentes de nos jours. Certains prétendent que les Juifs de Bérée étaient obligés de vérifier les enseignements de Paul parce qu'ils n'appartenaient pas à leurs convictions, à leurs croyances, parce qu'ils leur amenaient quelque chose de nouveau. Cette affirmation n'est pas exacte. Paul était juif comme eux. La Bible nous dit qu'il avait été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Qui était Gamaliel? C'était un pharisien, docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Paul se réclamait de lui, par conséquent, les Juifs de Bérée n'avaient aucune raison de s'en méfier. Que s'est-il passé à Bérée? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent. Ces Juifs recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Toutefois, ils prenaient la peine d'examiner chaque jour les Écritures pour s'assurer que les enseignements de Paul étaient bien conformes à la parole inspirée de Dieu. Qu'est-ce que Paul leur enseignait? Exactement ce qu'il avait enseigné aux Juifs de Thessalonique, qui, eux, avaient des sentiments moins nobles, moins courtois, puisqu'ils se tournèrent contre Paul. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Si ce récit a été préservé par Dieu, c'est qu'il doit nous servir d'exemple. Les Juifs de Thessalonique ne supportaient pas un enseignement non conforme à leurs croyances, tandis que les Juifs de Bérée avaient un esprit plus ouvert, plus réceptif. Ils acceptaient ce qu'on leur disait, mais après vérification quotidienne dans les Écritures. Ils n'essayaient pas de prouver que Paul avait tort. Ils recherchaient la vérité. Ils n'avaient pas peur de se remettre en question. Certaines personnes invoquent leur manque d'études pour ne pas vérifier ce qu'on leur enseigne. Elles s'estiment incapables d'entreprendre l'étude de la Bible. Pensez-vous que Dieu ne s'adresse qu'aux intellectuels? Non. D'ailleurs, la parole de Dieu s'adresse aux simples. Les disciples n'avaient pas fait de hautes études et Jésus avait déclaré « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Faut-il rappeler que Dieu a appelé les faibles? Paul écrit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, autrement dit selon le monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles selon le monde. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes selon le monde. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point ou qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nul n'a besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre la Bible, cette parole que Dieu préserva à travers les siècles. L'empire babylonien fut envahi et vaincu par Cyrus, roi de Perse, comme cela avait été prophétisé 200 ans avant par le prophète Ésaïe. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Cyrus fut si ébranlé par la prophétie le concernant, prophétie écrite par Ésaïe, qu'il décida d'honorer le grand Dieu qui lui avait accordé la victoire sur les Babyloniens. C'est ainsi qu'il rédigea un édit permettant à tous les Juifs emmenés captifs par les Babyloniens de retourner en Palestine et d'y reconstruire le temple de Dieu. Lorsque Esdras, sacrificateur et scribe, ainsi que Néhémie, le gouverneur, furent de retour à Jérusalem, ils décidèrent de rassembler tous les livres saints de l'Ancien Testament, les livres inspirés qui, tous, existaient déjà à l'époque. Joseph, l'historien juif qui était un pharisien renommé de son temps, confirme dans ses écrits que le canon des Écritures avait été rassemblé et complété à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Les livres de l'Ancien Testament furent donc rassemblés dans trois catégories, la loi, les prophètes, les Écritures ou les psaumes. La loi inclut la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Les prophètes comprennent Josué et les Juges, 1 et 2 Samuel avec 1 et 2 rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Et enfin, les Écritures comprennent les psaumes, les proverbes, Job, le Cantique des Cantiques, Ruth, les Lamentations de Jérémie, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras et Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Quant aux livres apocryphes et toutes les contrefaçons, falsifications ou ajoutes, ils n'ont jamais trouvé leur place dans ces trois divisions de l'Ancien Testament préservées par les Juifs. Tous les livres apocryphes que l'on découvre dans certaines versions, particulièrement les versions catholiques, ont été rejetés, exclus par les Juifs. Jésus lui-même reconnut les Écritures rassemblées par la Grande Assemblée ou le Grand Sanhédrin, car il s'y référa à plusieurs reprises, mais jamais il ne fit la moindre allusion aux apocryphes. S'il s'y était référé, il aurait été sévèrement repris par les Juifs de son époque qui cherchaient à prouver qu'il ne pouvait être le Messie. Il n'aurait pas manqué cette occasion, mais jamais Jésus ne leur offrit cette possibilité. Ils lui reprochèrent d'enfreindre les doctrines et les traditions des différentes dénominations juives de son temps, mais ils n'ont jamais pu lui reprocher l'emploi d'un livre non canonique. L'absence de toute censure juive sur ce point important est une preuve concluante que Jésus n'a cité que les livres inspirés. Jésus reconnaît-il ces trois divisions, la loi, les prophètes et les Écritures? Il déclara: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les auteurs des livres du Nouveau Testament savaient que les Juifs possédaient l'entièreté de l'Ancien Testament, et c'est le même qui se trouve dans les Bibles modernes. Paul déclara aux Romains que c'est aux Juifs qu'avaient été confiés les oracles de Dieu. Les oracles sont des décisions, la volonté, l'opinion exprimée avec autorité, en d'autres termes, les écrits. Quel est donc l'avantage des Juifs? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Paul ajoute, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte et les promesses et les patriarches. » Comprenons bien ce que Paul entend par alliance, loi, culte, promesse et patriarche. Paul savait parfaitement bien que les oracles étaient les livres inspirés du canon juif, rassemblés à l'époque d'Esdras et de Néhémie, et qui sont dans un ordre différent dans les Bibles modernes. L'histoire et la parole de Dieu prouvent que nous possédons bien aujourd'hui l'Ancien Testament complet. Tout ce qui n'est pas repris dans les trois catégories doit être rejeté, car il s'agit d'écrits qui ne sont pas d'inspiration divine. Pour s'assurer de l'exactitude de la transcription des Écritures, les membres de la Grande Assemblée ou le Grand Sanhédrin faisaient compter les lettres de chaque section. Ils voulaient s'assurer qu'en recompilant les textes sur un nouveau rouleau, aucune lettre n'était omise. Ce contrôle était effectué à plusieurs reprises, et cette façon de faire se perpétua jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Qu'en est-il des écrits du Nouveau Testament? Les disciples de Jésus en avaient la responsabilité. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Le mot scelle est traduit de l'hébreu chatam et a le sens de compléter, d'achever, de terminer. L'oracle, la révélation, les décisions de Dieu devaient être scellées. Elles furent complétées par le Christ qui, se trouvant parmi ses disciples, ajouta l'esprit de la loi à la lettre de la loi. Après quoi, il fallait protéger cette révélation, tous ces oracles. Les disciples le firent-ils? Oui, le Nouveau Testament a été protégé. Paul est condamné. Il attend la mort. Et voyons ce qu'il écrit à Timothée. « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Paul sera décapité, il perdra son sang et il compare sa mort avec l'offrande de vin reprise dans Nombre 15. « Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. De quel parchemin s'agit-il? Il semble être très important. Il s'agit des écrits du Nouveau Testament, ceux qui sont déjà rédigés à l'époque de la mort de Paul. Paul a écrit 14 épîtres. Luc, qui est près de lui, a écrit son évangile, ainsi que le livre des Actes. Marc, qui a rédigé un évangile, doit arriver. Matthieu, lui, ne sera pas près de Paul. Paul pourra donc confier à Luc et à Marc les écrits sacrés, car il sait que sa fin est proche. Cette réunion eut lieu aux alentours de l'an 67. D'autres livres du Nouveau Testament ne sont pas encore rédigés, mais ils le seront bientôt, et ce sera Pierre qui aura la responsabilité de les réunir tous. Pierre fut martyrisé après la mort de Paul. Lisons ce qu'il écrit. « Et je regarde, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » À la mort de Pierre, les trois épîtres de Jean, celles de Jude et l'Apocalypse, ne sont pas encore rédigées. Toutefois, Pierre va préserver tous les écrits existants, y compris ceux de Paul. Voilà pourquoi, bien que les épîtres ou lettres de Paul ne lui ont pas été originellement adressées, il écrira « La patience de notre Seigneur à votre salut, comme Paul vous l'a aussi écrit. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Pierre avait donc connaissance des écrits de Paul. Qu'allait-il se passer à la mort de Pierre? Qui les préserverait et y ajouterait les trois épîtres de Jean, celles de Jude et l'Apocalypse? Jean vécut jusqu'aux environs de l'an 100, et il avait été lui aussi un disciple de Jésus, un autre témoin direct. Ses écrits révèlent que la responsabilité de réunir et de préserver les livres qui devaient faire partie du canon des Écritures du Nouveau Testament lui échut. Il écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. L'introduction du livre de l'Apocalypse au canon des Écritures complétait les sept parties, les sept divisions de la Bible étaient enfin complètes. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.